VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir l'Afrique, Morgane Guerriec au micro. Dans quelques instants, l'Amérique et vous avec Timothée Donangmaï. Mais d'abord, un tour d'horizon de l'actualité. Au Burundi, la police a tiré à balles réelles sur les manifestants. Information rapportée par l'AFP. Deux manifestants protestant contre la candidature du chef de l'État burundais Pierre Nkurunziza à un troisième mandat ont été tués aujourd'hui à Bujumbura. Ces deux morts portent à 8 le nombre de personnes tuées dans la répression des manifestations contre un troisième mandat de M. Nkurunziza. Les détails avec Salwa Jafari.
Après 2 jours de trêve, les manifestations ont repris de plus belle. La détermination des anti-Nkurunziza ne s'est pas estampée malgré la répression des forces de l'ordre, malgré les 8 morts depuis le début de cette vague de contestation. Plusieurs manifestants opposés à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont été blessés par balle à Bujumbura, alors que pour la première fois, les protestataires ont réussi à gagner la place de l'indépendance au cœur de la capitale. Ils dénoncent la désignation de Nkurunziza élu une première fois en 2005, puis en 2010 comme candidat de son parti, le CNDD-FDD, à la présidentielle du 26 juin. Les opposants à un troisième mandat le jugent anticonstitutionnel et contraire à l'accord d'Arusha. Les pro-Nkurunziza, eux, persistent à défendre l'ambition de l'actuel président. Et ces divisions sur le troisième mandat sont ressenties jusqu'au sein des forces de l'ordre, surtout l'armée, vu sa composition ethnique. D'un côté, les ex-rebelles Hutus, de l'autre, les ex-combattants Tutsis. Si la situation venait à dégénérer, ces différences pourraient facilement donner lieu à de réelles fractures.
À noter que le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, estime que la candidature de Pierre Nkurunziza à la présidentielle est contraire à la constitution burundaise. En visite à Nairobi, le secrétaire d'État américain John Kerry a également rendu hommage aux victimes d'attentats récents et plus anciens, comme celui de 1998 contre l'ambassade américaine. Il a promis que les États-Unis continueraient à soutenir la lutte contre le terrorisme. Félix Yepassi-Zembrou.
John Kerry a pris part à une cérémonie de dépôt de gerbes à un mémorial sur le site de l'attentat de 1998 contre l'ambassade américaine. Les terroristes échoueront toujours dans leurs efforts visant à propager de la peur et la division, a dit M. Kerry, ajoutant, je cite, « l'avenir ne leur appartient pas ». John Kerry a pris part à une cérémonie de dépôt de gerbes à un mémorial sur le site de l'attentat de 1998 contre l'ambassade américaine. Les terroristes échoueront toujours dans leurs efforts visant à propager la peur et la division, a dit M. Kerry, ajoutant, je cite, « l'avenir ne leur appartient pas ». Oui, ils peuvent réduire un bâtiment en ruine, et oui, ils peuvent même priver les gens innocents de leur vie, mais il ne donne rien à personne de ce qui rend la vie importante, a-t-il déclaré ce lundi dans la capitale kényane. M. Kerry a discuté avec le président kényan Uhuru Kenyatta sur les moyens de faire face plus efficacement aux menaces posées par le groupe Al-Shabaab basé en Somalie voisine. Les islamistes armés ont ciblé le Kenya dans de multiples attaques très meurtrières, y compris le siège du centre commercial Westgate à Nairobi en 2013, et l'assaut du mois dernier sur l'université de Garissa. Le groupe a lié les attentats à la participation du Kenya dans la force de l'Union africaine luttant contre Al-Shabaab en Somalie.
En Côte d'Ivoire, des cadres du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo ont été interpellés ce lundi après leur participation la semaine dernière à une réunion contestée ayant désigné l'ex-chef de l'État ivoirien comme président de cette formation en crise. Deux camps s'affrontent au sein du FPI. C'est au sein de l'aile dissidente à la direction actuelle que s'opèrent les arrestations. On fait le point avec Jean-Gervais Tchiédé, vice-président de cette faction.
En tout cas, 4 personnes ont été interpellées ce matin par la police. Je précise que le ministre Béoulaye, le professeur Béoulaye, a été interpellé dans sa maison où les forces de l'ordre qui sont arrivées sont entrées avec les personnes dans sa chambre où il était touché et l'ont pris dans sa chambre pour l'amener. Et lui, également, il a dit pareil. Il a été interpellé, il a été arrêté chez la police. Le jeune Justin, qui travaille à Bodoukou, à l'intérieur du pays, au nord-est de la Côte d'Ivoire, a été appelé, convoqué à la police et il a été arrêté. Ils sont en train de le convoyer sur Abidjan. On vient de nous dire aussi, il y a 10 minutes, que celui qui a remplacé Kouaï Justin à la tête de la jeunesse du pays, à savoir Daï Nefor, aurait été aussi interpellé il y a quelques minutes.
Jean-Gervais Tchédé, vice-président de cette faction. Tension politique en Guinée, à Conakry, la résidence de Sélou Dalène Diallo, chef de file de l'opposition, a été cernée par un cordon de police et de gendarmerie. Un déploiement similaire entourait les domiciles de Sidya Touré et Baïdi Haribo, deux autres responsables de son camp. Les forces de l'ordre se sont déployées à Conakry pour empêcher une nouvelle mobilisation de l'opposition contre le calendrier électoral. Le président togolais Faure Gnassingbé, réélu pour un troisième mandat de 5 ans, a prêté serment ce lundi à Lomé devant la Cour constitutionnelle. On fait le point avec Idriss Fall.
La Cour constitutionnelle a proclamé hier les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 25 avril dernier. Faure Gnassingbé a obtenu 58,77% des suffrages exprimés contre 31,19% à Jean-Pierre Fabre. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu dans une salle des fêtes non loin du palais présidentiel devant quelques 500 dignitaires. Un seul candidat de l'opposition, Komandega Tama, arrivé en 4e position, était présent à cette cérémonie. Jean-Pierre Fabre a dénoncé un scrutin frauduleux et conteste la victoire de M. Gnassingbé, mais a décidé de ne pas déposer de recours devant une cour constitutionnelle qu'il considère comme inféodée au régime togolais. De leur côté, les différentes missions d'observation électorale ONU, Union africaine, CDAO ont considéré le scrutin libre et transparent, sans signaler de fraude.
Au Niger, on redoute de nouvelles attaques de Boko Haram. Conséquence, des milliers de personnes ont évacué les îles du lac Tchad dans le sud-est du pays. Les habitants de ces îles ont été appelés jeudi à évacuer d'ici aujourd'hui ces sites vulnérables pour des impératifs de sécurité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Drame de l'immigration en Méditerranée, près de 7000 migrants illégaux qui ont tenté de joindre l'Europe sont actuellement détenus en Libye. Tel est le chiffre donné par les autorités de Tripoli. En Afghanistan, au moins 2 personnes sont mortes et 20 autres blessées dans un attentat suicide contre un bus transporté des employés au bureau du procureur. Les autorités fédérales américaines ont effectué une fouille dans l'appartement de 2 hommes tués par la police au Texas. Ces hommes auraient tiré sur une garde de sécurité à l'extérieur d'un concours caricature du prophète Mahomet. Lionel Gaïma.
Les autorités de la ville de Garland, près de Dallas, ont annoncé que le garde blessé est hors de danger. Suite à l'incident, la police était à la recherche d'éventuelles bombes à l'intérieur du véhicule des suspects. Ils n'ont pas nommé ces derniers, qui vivaient dans l'Arizona. Une organisation appelée l'Initiative américaine de défense de la liberté a parrainé le concours, offrant un prix de $10,000 pour le vainqueur. Le directeur exécutif de l'association, Pamela Geller, a déclaré à CNN que l'événement était à propos de la liberté d'expression. Le site web d'AFDI affirme que plus de 350 caricatures ont été soumises, ajoutant que les Américains ne seront pas intimidés par la violence islamiste. Le Southern Poverty Law Center, qui conserve des données sur les groupes extrémistes aux États-Unis, cite cette organisation AFDI comme anti-musulmane.
Le calme est revenu timidement à Baltimore aujourd'hui après la fin du couvre-feu nocturne imposé suite aux violences de la semaine dernière. Le maire de Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, avait dit hier soir qu'elle ne souhaitait pas prolonger le couvre-feu au-delà du temps nécessaire. Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a annoncé que l'état d'urgence serait levé après le départ de 4000 soldats et policiers venus d'autres régions pour aider à ramener la paix à Baltimore. Présidentielle américaine, après Ted Cruz, Rand Paul et Marco Rubio, 3 nouveaux candidats entrent en lice pour l'investiture du Parti républicain. L'ancienne PDG de Hewlett Packard, Carly Fiorina, le célèbre neurochirurgien Ben Carson ont annoncé leur candidature ce lundi. Voilà pour ce bulletin d'information. Je laisse la place à Timothée Donangmaï dans l'Amérique et vous.
Soyez au cœur de l'info.